Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans Du Grand Amour. Nous sommes ensemble jusqu'à 19h. Les lignes sont-elles en train de bouger en Europe à propos de la crise grecque? La dernière réunion de l'Eurogroupe sur le sujet, le 22 mai dernier, s'est soldée par un échec, ses membres ne parvenant pas à se mettre d'accord sur le versement d'une nouvelle tranche d'aide à la Grèce de l'ordre de 7 milliards d'euros. Mais hier, le numéro 2 de la Banque Centrale Européenne, le français Benoît Cœuré, a appelé les ministres de la zone euro à cesser de tergiverser et surtout à prendre des mesures d'allègement de la dette grecque lors de leur prochaine réunion le 15 juin. Pour l'agence Reuters, ce proche de Mario Draghi, le président de la BCE, s'est ainsi placé nettement du côté d'Athènes dans le débat qu'il oppose en particulier à l'Allemagne. Dans ce changement de ton, la presse s'en fait aussi l'écho à travers des éditoriaux beaucoup moins catégoriques qu'ils ne l'étaient il y a encore 2 ans, lorsque la crise grecque faisait la une des journaux et que le pays et ses habitants étaient renvoyés au statut de mauvais élèves de l'Europe. Le Monde parle désormais de feuilleton infernal, les échos d'un remède qui devient pire que le mal. L'austérité, défendue jusque-là par une majorité de médias, ne semble plus avoir les mêmes faveurs. Alors crise grecque, les médias doivent-ils faire leur mea culpa? Eh bien, pour en discuter, trois journalistes ce soir, à commencer par Romaric Godin. Bonsoir.
Bonsoir.
Journaliste économique à Mediapart. Depuis peu, après avoir passé de longues années à la Tribune, vous avez par ailleurs publié une chronique sur le site d'Arrêt sur Image. Chronique intitulée « La Grèce, mauvaise conscience de l'éditorialiste économique ». Pour discuter avec vous, une autre journaliste, elle est au téléphone depuis Athènes, c'est Alexia Kefalas. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes journaliste freelance, vous travaillez pour la presse écrite, pour la télévision, vous êtes souvent sollicité par les médias français pour des correspondances. Vous nous direz peut-être d'ailleurs dans un instant si vous l'êtes toujours autant ou si la question grecque est un peu sortie des radars des médias, ou, en tout cas au moins des médias français. Et puis troisième invité, cette fois en duplex des studios de Radio France à Bruxelles, Cécile Ducourtieu, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes la correspondante du journal Le Monde à Bruxelles. Vous avez couvert le dernier Eurogroupe consacré à la Grèce. C'était le 22 mai dernier. Alors avant d'évoquer la façon aujourd'hui dont avec laquelle les médias parlent de la Grèce, je voudrais qu'on commence par l'intensité avec laquelle ils en parlent. Et Romaric Godin, je vais reprendre les tout premiers mots de votre chronique. Vous écrivez ceci, c'était il y a quelques jours de cela, hein. Il est des silences très parlants, ainsi celui des éditorialistes et chroniqueurs économiques français sur la situation grecque depuis quelques mois. Est-ce que vous faites le constat que la Grèce n'intéresse plus les médias, en tout cas les intéresse beaucoup moins qu'il y a quelques mois?
Oui, alors d'abord, j'aurais dire que c'est pas le cas de tous les médias et de tous les modes de traitement. C'est-à-dire qu'il y a des journaux qui ont une couverture importante de l'actualité internationale et qui traite la Grèce sous l'angle de l'actualité. On peut en parler sur la façon dont ce traitement est fait, qui est un traitement qui est plus ou moins profond, mais qui est réel. Ma chronique visait en fait plutôt le chroniqueur et l'éditorialiste, qui en l'occurrence me semblait intéressant parce que c'est une façon de former ou d'informer l'opinion, c'est-à-dire que le chroniqueur il prend en effet un parti et il va amener l'auditeur ou le lecteur à réfléchir sur la crise grecque en l'occurrence dans ce cas.
Mais avant d'aller sur le fond, sur le nombre, on va dire,
oui, disons de... Donc c'est là-dessus que je voulais dire, c'est-à-dire qu'en fait on a eu en effet un traitement des chroniques ou des éditos sur la crise grecque qui était très important évidemment au moment de la crise de 2015. Et en fait, après l'accord des 12-13 juillet 2015 entre la Grèce et ses créanciers, on a eu l'impression que voilà, l'affaire était réglée, qu'on mettait un troisième plan d'aide, ce qu'on appelle un plan d'aide à la Grèce, et que c'était terminé. Et il faut finalement qu'il y ait à nouveau ces échecs à l'Eurogroupe qui en réalité c'était cousu de fil blanc dès le départ pour que on commence à se reposer la question de la réalité dans laquelle est la Grèce maintenant depuis 7 ans.
Alexia Kefalas, est-ce que vous partagez ce constat peut-être d'un moindre intérêt pour la question grecque depuis l'été 2015, dont on peut dire peut-être que ça a été un des paroxysmes de cette crise? Est-ce que vous, par exemple, vous êtes êtes beaucoup moins sollicité que vous ne l'étiez il y a 2 ans encore.
Bah forcément, parce que il y a 2 ans, faut recontexter la situation. Et il y a 2 ans, début juin déjà 2015, on parlait d'une sortie de la Grèce de la zone euro. La presse internationale en faisait ses couvertures. C'était vraiment assez fort. Et puis Alexis Tsipras, le premier ministre grec, convoquait un référendum pour ou contre les mesures d'austérité qui a été transformé par les créanciers du pays en pour ou contre l'euro. Donc forcément, il y avait un intérêt qui était absolument fou, qui était unique d'ailleurs depuis le début de cette crise en 2010. Et donc maintenant, c'est tombé. Alors de là à dire, moi personnellement, pour les médias français, je continue notamment pour la presse écrite à couvrir beaucoup la Grèce, mais sur d'autres angles, notamment géopolitique, la question migratoire qui est importante, la question aussi économique, mais un peu moins effectivement sur la dette. Et là où Romaric Godin a raison, c'est qu'effectivement l'éditorialiste économique en tant que tel ne sait pas trop comment se positionner. Pourquoi ? Et bien parce que il y a un sujet maintenant qui est profond, on rentre vraiment dans le sujet le plus épineux de cette crise grecque, c'est-à-dire la dette. La dette, elle est abyssale en Grèce, elle représente 180% du PIB, elle n'est pas viable, et surtout, on arrive à un sans-issue, c'est-à-dire que depuis 7 ans, c'est mesure de rigueur sur mesure de rigueur, coupe budgétaire, coupe budgétaire, et surtout coupe sur les salaires et les retraites, et ça ne mène à rien, c'est-à-dire que le poids de la dette est toujours aussi important, et résultat, il y a un problème qui divise notamment les médias européens. Pourquoi ? Parce que la dette grecque appartient à 70-75% aux institutions européennes. Et là, il faut savoir de quel côté est-ce qu'on se place.
Alors justement, Alexia Kefalas, n'en dites pas trop tout de suite. Vous savez, on a quand même un peu de temps. On a 40 minutes pour... Non, c'est pas grave. On a un petit peu de temps pour discuter. Et on va aller effectivement sur cette question de savoir comment se positionner à partir du moment où on fait quand même le constat aujourd'hui que la politique d'austérité qui a été imposée à la Grèce manifestement ne fonctionne pas. Mais pour rester sur cette première question et pour entendre aussi Cécile Ducourtieu, votre point de vue, vous, depuis Bruxelles, sur l'intensité du traitement de la question grecque. Vous nous disiez, notamment en préparant l'émission, que le fait également que les discussions autour de la crise grecque se passent au niveau ministériel et non pas au niveau des chefs d'État, ça pouvait aussi contribuer à un moindre intérêt, à une moindre intention médiatique, moindre attention médiatique.
Oui, c'est tout à fait possible. En tout cas, une moindre attention médiatique des médias télévisuels, parce que pour ce qui est de la presse écrite et de mon journal en particulier, j'ai pas l'impression d'avoir baissé la garde sur la Grèce, parfois mon corps défendant. Et là, je rejoins ma collègue Alexia à Athènes. On continue à suivre cette crise régulièrement, au moins à chaque Eurogroupe à Bruxelles, et il y en a à peu près un tous les mois et demi.
Pourquoi est-ce que vous dites, Cécile Ducourtieu, parfois mon corps défendant, c'est-à-dire des fois vous aimeriez bien vous abstenir de parler de la Grèce?
Non, mais en fait, la problématique sur la Grèce, en tout cas du point de vue des journalistes bruxellois, c'est la même depuis 2 ans. Alors, disons, c'est la même depuis 1 an. La Grèce, contrairement à ce qu'on pouvait penser il y a 2 ans, avec ce gouvernement Tsipras, a délivré les réformes que lui demandaient les créanciers. Et Dieu sait si ces réformes étaient dures et ressemblaient à un énième plan d'austérité, peut-être encore plus conséquent que les précédents. Donc elle a délivré, et ça fait 1 an que ici à Bruxelles, un ministre des Finances allemand discute entre 4 murs, donc dans la plus grande opacité, avec un représentant du FMI dont on ne sait parfois pas qui c'est d'ailleurs, tellement c'est difficile d'avoir des informations sur leur groupe, de la nécessité de savoir si la dette publique grecque est soutenable ou pas, alors que selon toute vraisemblance, elle est difficilement soutenable, étant donné son niveau par rapport au PIB qui est scotché à 180% du PIB grec depuis quelques années.
Ça veut dire, Cécile Ducourtieu, que vous pouvez avoir parfois l'impression de devoir réécrire plus ou moins
le
même article?
Oui. Voilà, de me répéter, tout à fait. Ça fait à peu près 1 an qu'on se répète, et là, depuis le début de l'année, on parle, ça devient difficile de suivre hein, quand on est ici, on parle de l'opportunité ou pas de verser une énième tranche de dette, énième tranche de prêt, excusez-moi, dans le cadre du troisième plan d'aide et de, dans le cadre, dans ce troisième plan d'aide de la deuxième revue. Donc tout le monde s'y perd en fait quand on n'est pas, quand on suit pas très régulièrement les Eurogroupes, et je pense que c'est aussi pour ça que les médias qui sont moins en prise directe avec ces réunions bruxelloises perdent le fil en fait.
Renard Higaudin, cette impression de devoir se répéter sur ce même sujet, vous la ressentez aussi un peu?
Bien sûr, je pense que tous les journalistes qui suivent la crise grecque ont cette impression. Mais je pense qu'il faut aussi le prendre comme un symptôme, c'est-à-dire que le fait que, en effet, ces discussions tourneront depuis un an, en fait, depuis deux ans, en fait, depuis sept ans, sont le symptôme quand même d'un échec patent d'une certaine logique. Et voilà, moi, la question, encore une fois, il ne s'agit pas de mettre en cause le traitement qui est fait à Bruxelles, à Athènes, par des journalistes. C'est pas du tout ça. Mais la question est pour moi plutôt de se demander justement pourquoi. Mais depuis, il y a eu un peu de changement, depuis l'écriture de ma chronique, mais de se demander pourquoi justement l'éditorialiste économique, eh bien, tout simplement, ne se posait pas cette question de savoir, mais ça fait un an en réalité que mes journalistes à Bruxelles ou à Athènes écrivent la même chose, et qu'on tourne en rond, et donc il y a un problème sur ces plans qu'on a imposés à la Grèce, et peut-être qu'il y avait un problème dans mon traitement, moi, éditorialiste économique, que j'ai fait de la crise au premier semestre 2015. Voilà. Donc la question de la répétition du blocage, elle est aussi au cœur de la question grecque. Plus largement, elle est au cœur du fonctionnement de l'Europe. Si ça pose problème que ce soit l'Eurogroupe qui discute, c'est bien parce que l'Eurogroupe est une sorte de trou noir dans le fonctionnement de ces plans d'aide, et que plus largement, c'est un trou noir dans le fonctionnement de l'Union européenne. Et ça, qu'on le veuille ou non, le gouvernement Tsipras 1 au premier semestre 2015 avait quand même mis le doigt dessus, et à l'époque, on lui avait envoyé une petite volée de bois vert parce que ça ne se faisait pas.
Voilà. Alors allons justement à présent sur le fond du traitement médiatique de cette crise grecque, et notamment puisque vous évoquez leur cas, Romaric Godin, les éditorialistes économiques. Moi, j'ai été frappé il y a quelques jours de cela d'entendre sur Europe 1 Nicolas Barré, directeur de la rédaction des Échos, faire une chronique. Alors, chronique intitulée sur le site d'Europe 1, même si ça n'apparaissait pas comme ça de cette manière à l'antenne, les Allemands très méchants avec les Grecs. Et écoutez ce qu'il disait, c'était le 24 mai dernier. Vous me direz si on est dans un changement de ton sur ce sujet, Nicolas Barré.
Les Allemands font preuve d'une rigueur qui ne change pas. Hein. Tout le monde connaît l'histoire. La Grèce est surendettée parce que les gouvernements successifs ont mal géré le pays, n'ont rien fait pour lutter contre l'évasion fiscale. Et puis tout le monde, y compris les banques allemandes, ont prêté à ce pays les yeux fermés.
Mais depuis, les Grecs ont quand même fait beaucoup, beaucoup, beaucoup d'efforts, Nicolas.
Et voilà, c'est ça l'histoire. Des efforts comme aucun pays européen n'en a fait. Baisse des salaires, baisse des retraites, réduction de très nombreuses aides sociales, hausse des impôts. Les Grecs ont accepté des sacrifices absolument énormes, mais tout le monde le sait depuis le début de cette crise, c'est-à-dire depuis 8 ans, même avec tous ces efforts, le pays ne peut pas s'en sortir sans un allègement de sa dette. C'est incontournable, c'est quasi mathématique.
Et ça, l'effacement d'une partie de la dette grecque, les Allemands refusent toujours catégoriquement.
Et voilà, ils refusent, ce qui fait que les Européens ne peuvent pas débloquer une nouvelle tranche d'aide qui était pourtant prévue et qui devait permettre à l'État grec de passer l'été. Ce refus, je dirais, de comptable est dramatique parce qu'il y a un moment où le remède devient pire que le mal, si vous voulez. La société grecque est arrivée au bout de ce qu'elle peut supporter. Nous avons fait le choix collectif en Europe que la Grèce reste dans la zone euro. Eh bien, dont acte, mais il y a un moment où il faut assumer ce choix et non pas traîner cette affaire grecque de 6 mois en 6 mois sans rien régler. C'est contre-productif sur le plan économique et c'est nuisible politiquement.
Voilà, donc Nicolas Barré, directeur de la rédaction des Échos sur Europe 1. Quelques jours plus tard, Dominique Seux, qui lui aussi fait partie des Échos, qui est directeur délégué de la rédaction, qui cette fois sur France Inter tenait une chronique intitulée « Supplice chinois pour la Grèce », qui était à peu près sur le même ton. Est-ce que les uns et les autres vous êtes surpris justement par la tonalité de au moins de cet éditorial-là? Et est-ce qu'on peut imaginer qu'il y a une forme de prise de conscience finalement qui est en train d'avoir lieu aujourd'hui après ces longues années de crise pour la Grèce, Alexia Kefalas.
Alors, ce qui est assez étonnant, c'est de voir qu'il a fallu tout ça, il a fallu souffrir depuis 8 ans maintenant, pour qu'on se rende compte que finalement, la recette qui a été donnée à la Grèce n'était pas la bonne. Alors, il faut savoir que le problème, le blues de l'éditorialiste économique, il n'est pas qu'en France, il est aussi en Grèce. Je collabore aussi avec un quotidien grec qui s'appelle Kasimelni, qui est de centre droit. Et comme beaucoup de presse étrangère, au début de la crise, en 2010, et quand la Grèce a été placée sous tutelle budgétaire de l'Union européenne et du Fonds monétaire international, l'heure était au compte, à savoir pourquoi il y a eu tant de gabegies, pourquoi la dette est arrivée à un tel niveau, qu'est-ce qui s'est passé, voilà. Et donc, on écrivait tous les jours, toutes les semaines, sur le problème de l'évasion fiscale qui était endémique, de la corruption, des fonds européens mal utilisés. Et effectivement, là, c'était les Grecs l'avaient l'installé en public. Alors, l'installé en public, ça allait dans tous les sens. Et on s'est rendu compte, et pas pourquoi ça se passait. C'est parce que l'Union européenne, qui était un organe, une institution de confiance pour les Grecs, hein, attention, ça venait de là, c'était vraiment le sérieux, ça a été fondé pour être une institution sérieuse. La Banque Centrale Européenne aussi, le Fonds Monétaire International, n'en parlons pas. Donc, allant dans cet état d'esprit-là, et bien forcément, d'abord, on fait il y a eu le mea culpa des Grecs. En disant, bon, effectivement, il y a eu des erreurs. Et c'est la raison pour laquelle les grandes manifestations monumentales se sont vite étouffées, parce que les Grecs ont commencé à culpabiliser. Sauf qu'ils se sont rendus compte, dès 2011, quand ils ont commencé à envoyer ce qu'on appelle la task force, qui étaient des fonctionnaires européens venus au chevet des Grecs pour leur aider notamment à faire un cadastre, par exemple. On avait un fonctionnaire venu des Pays-Bas qui faisait la leçon aux fonctionnaires grecs et puis après qui repartait, qui comprenait, qui n'essayait pas de comprendre ce qui se passait véritablement en Grèce et pourquoi il n'y avait pas de cadastre. Donc tout ça... Ils ont vu les Grecs qu'en fait c'était un peu du n'importe quoi, que c'était absolument pas organisé, qu'en 2016, il n'y a pas si longtemps finalement, il y a un an, le Fonds monétaire international lui-même a révélé et a réalisé que c'était peut-être pas la bonne recette, qu'il y avait eu des erreurs, qu'il s'était trompé sur le cas grec. Donc là, forcément, tout ce qui était assez sacré, j'ai envie de dire, pour les Grecs, à savoir ces institutions européennes notamment, et tout ça s'est effondré, il n'y a plus de confiance du tout.
Et est-ce que vous, Alexia...
Il y a ce retournement de la presse.
Alexia Kefalas,
est-ce... En disant, il y a les Allemands qui ne sont pas si gentils que ça.
Alexia Kefalas, je ne sais pas si vous m'entendez, est-ce que vous, comme journaliste, vous avez aussi, à un moment donné, peut-être pris conscience que la façon dont vous parliez de cette crise au début... n'avait peut-être pas été la bonne et que finalement ce mea culpa que vous évoquiez, vous l'assumeriez aujourd'hui également en tant que journaliste qui a beaucoup parlé de cette crise grecque.
Bien sûr, mais j'ai absolument pas de problème à l'assumer, et moi la première, j'ai envie de dire. Le problème, c'est que moi, dès le début aussi, je parlais des coupes sur les salaires, sur les retraites qui concernaient tout le monde, et notamment ma propre famille. Hein. Attention, tous les Grecs ont été touchés, personne n'a été épargné, peut-être à part certains armateurs. Mais pour le coup, on était tous concernés, donc on parlait aussi des problèmes de l'austérité. Sauf que il y avait ce sentiment que peut-être que c'était celui qui venait de l'étranger, l'Européen, qui aurait permis à la Grèce de se réformer quelque part. Et parce qu'on voyait celui qui habite à Athènes et qui voyait, ou même celui qui connaît un peu la Grèce, Romaïque et Cécile connaissent bien aussi, on savait qu'avant 2009, avant le début de la crise, il y avait quand même un mode de vie qui était pas forcément normal. Beaucoup de Grecs vivaient au-dessus de leurs moyens, et ça, je l'écrivais bien avant la crise. Quand ils achetaient la dinde de Noël en 24 mois, parce qu'ils avaient tous 10 à 15 cartes de crédit, qu'ils étaient tous endettés, les Grecs, donc au bout d'un moment... j'en parlais bien avant la crise et j'en écrivais des tonnes bien avant la crise. Donc il y avait un problème de système de vie. Et finalement, avec la crise, on s'est dit, peut-être qu'il va y avoir des réformes, peut-être que le modèle européen et cette fameuse cure d'austérité n'est peut-être pas la bonne, mais il y avait aussi des réformes dans ce programme, dans ce fameux plan d'aide, comme les Européens aiment l'appeler. Mais finalement, on s'est rendu compte que non, il n'y avait rien derrière, il y avait juste de l'austérité et des taxes.
Cécile de Courtieu, est-ce que
l'éditorialiste économique et la presse, bon, je vais vous citer la presse française, mais la presse internationale commence à revenir. Et c'est aussi, et Cécile pourra vous le témoigner, avec, on a vu les minutes qui ont été révélées par un site grec économique qui montre les minutes du dernier Eurogroupe où on voit la Grèce qui est une balle de ping-pong entre le FMI et l'Allemagne et personne ne peut s'entendre.
Voilà, et ces minutes voilà, qui ont été révélées font d'ailleurs l'objet d'un article signé par Cécile Ducourtieu, qui, je le rappelle, donc, est correspondante du journal Le Monde à Bruxelles. Est-ce que depuis votre observatoire bruxellois, Cécile Ducourtieu, vous partagez la même analyse qu'Alexia Kefala sur peut-être une forme de prise de conscience aussi du monde journalistique par rapport à ce que était en train de devenir cette crise grecque ? Pas seulement de votre point de vue, mais aussi de la part de vos confrères, parce que j'imagine que vous êtes quand même un certain nombre depuis Bruxelles.
Oui, on est un paquet de journalistes ici. On est presque un millier de journalistes. Alors peut-être pas un millier à suivre la crise grecque et les Eurogroupes, mais 400 ou 500 personnes qui à chaque fois ici sont présents pour recueillir les bribes d'informations à la sortie des Eurogroupes. Je rejoins tout à fait ce que disent mes deux collègues. J'aurais juste un petit bémol ou pour revenir sur l'expression les Allemands sont méchants. On a eu conscience ici qu'ils étaient méchants. Alors moi j'ai une antériorité de la crise grecque entre guillemets qui n'est que 2 ans. Hein. Je me suis mis sur ce dossier tout début 2015 avec l'arrivée au pouvoir d'Alexis Tsipras à Athènes. Mais on a eu vraiment conscience de la méchanceté entre guillemets, de certains Allemands et spécialement du ministre Wolfgang Schäuble au mois de juin-juillet 2015 quand le premier il a mis sur la table le tabou ultime qui était une hypothèse écrite de la sortie de la Grèce de la zone euro, donc un Grexit comme on disait ici. Là, je me rappelle même de la réaction de mes collègues allemands ici qui étaient choqués, hein, les Allemands, les médias allemands, les gens de la Commission européenne, les gens de la Banque centrale européenne qui sont a priori plutôt des gens déconnectés du terrain, c'est en partie faux pour la Commission européenne qui est assez présente en Grèce, mais qui avait quand même une lecture assez dépersonnalisée et sans émotion du dossier. Et là, on a vu arriver cette hypothèse de travail des Allemands qu'on a trouvé très très choquante, parce qu'au même moment, on savait très bien qu'une sortie de la Grèce de la zone euro, ça avait des implications géopolitiques très très graves. La Grèce étant près de la Turquie, on l'a vu d'ailleurs quelques mois plus tard avec la crise de la migration, à quel point il était important de garder la Grèce dans la zone euro et dans l'Union européenne, puisque quelque part, la sortie de la zone euro aurait impliqué celle de l'Union européenne. Donc déjà, il y a 2 ans, on avait senti quand même que certains Allemands étaient prêts à aller très loin, et donc y compris chez mes collègues allemands et mes collègues néerlandais, parce que les Allemands ne sont pas les seuls très durs sur le dossier. On avait senti.
Parce que quand vous parlez de vos collègues, hein, vous parlez de vos collègues journalistes. Hein.
On est bien d'accord. Oui, tout à fait, tout à fait. Mais je vous dis, il y avait aussi des représentants des créanciers qui étaient choqués et qui continuent de l'être, hein, par cette attitude bloquante. Alors après, pour revenir sur la prise de conscience des derniers mois, c'est vrai, comme je vous disais tout à l'heure, j'ai l'impression de me répéter depuis presque un an, parce que on est dans cette situation qui est devenue presque aberrante. D'abord, d'avoir le seul pays de la zone euro quasiment qui est encore dans cette situation de perfusion financière de créanciers internationaux. On a l'impression qu'ils verront jamais le bout du tunnel, alors que l'intérêt de chacun, des Grecs, mais y compris des Allemands, des Néerlandais, des Finlandais, des Slovaques, des Français évidemment, c'est qu'ils sortent de cette situation, parce que ce dossier-là renvoie une image de l'Europe et de l'eurozone incapable de régler des problèmes qui sont quelque part pas difficiles à régler. Hein. Faire en sorte que les Grecs payent moins de dettes ou leur donner cette concession politique de limiter les repaiements de la dette publique grecque, c'est franchement, d'un point de vue politique, pour les Allemands ou les Néerlandais, pas difficile.
Romaric Godin, cette prise de conscience, je reste quand même sur cette idée, prise de conscience qui peut exister dans, semble-t-il quand même, des médias de plus en plus nombreux aujourd'hui, mais est-ce que c'est pas logique finalement qu'elle n'intervienne qu'aujourd'hui et pas forcément au début ? C'est-à-dire le travail d'un journaliste, c'est pas forcément de dire, voilà, telle mesure est bonne, telle mesure est mauvaise, mais plutôt de juger, une fois que ces mesures sont mises en place, de leur efficacité ou, au contraire, de leur inefficacité. Et que finalement, c'est ça le vrai travail journalistique. C'est-à-dire, il aura peut-être fallu attendre, c'est terrible pour les Grecs, mais de voir que les politiques d'austérité ne fonctionnaient pas pour pouvoir dire qu'elles ne fonctionnaient pas.
Alors, C'est vrai, vous avez raison, et c'est pour ça que moi, à titre personnel, je ne peux pas blâmer les gens qui, en 2010, ont soutenu les plans d'aide à la Grèce, voire même celui de 2012, il pouvait être encore soutenable. Il n'y a pas de difficulté avec ça, on a le droit de se tromper, on a le droit de reconnaître qu'on s'est trompé, je me trompe aussi, tout le monde se trompe, c'est tout à fait normal. Là où c'est un peu plus gênant, si vous voulez, c'est que en début 2015, on savait déjà en fait que ça marchait pas. Et tout le monde le savait en réalité. Et d'ailleurs, Nicolas Barré le dit. On le sait depuis 8 ans. Lui, il le sait depuis 8 ans. C'est amusant parce qu'il le sait depuis 8 ans, mais il le dit que maintenant.
Je précise d'ailleurs, petite parenthèse, on l'avait invité, mais il pouvait pas venir parce que voilà, oui, les échos ils sont en bouclage à cette heure-ci.
Rien de personnel contre voilà. Lui, mais je suis assez surpris parce que moi j'ai vécu depuis Paris, un peu depuis Athènes, mais beaucoup depuis Paris. C'est ce premier semestre 2015 où le gouvernement grec était sous une forte pression des créanciers. Où il avait fait des propositions, on peut discuter du comment, etc., mais enfin des propositions qui étaient des propositions assez concrètes concernant la dette, qui répondaient en fait à une situation d'urgence de l'époque déjà, et d'ailleurs le gouvernement grec précédent lui-même avait été en rupture en fait avec les créanciers sur cette question-là déjà, puisqu'on lui avait promis dès novembre 2012 une restructuration de la dette qui n'est jamais arrivée. Donc en fait, on savait tout ça. Et ce qui est un peu gênant dans cette affaire, c'est que on a caricaturé le débat au début 2015, et là encore une fois, je ne parle pas des gens qui étaient à Bruxelles ou à Athènes qui eux rendaient compte de la situation, mais je parle vraiment des chroniqueurs et des éditorialistes. On a caricaturé le débat. Alors là, pour le coup, c'était les méchants Grecs qui veulent échapper en gros à leurs responsabilités avec notre argent. Voilà, c'était pour être simple un peu cette faction-là.
Et qui en plus portait Syriza au pouvoir.
Et voilà. Et donc on a évité peut-être. Pour des raisons quand même, il faut le dire, politiques, c'est-à-dire qu'on voulait pas de ce parti au pouvoir et on voulait pas de ces gens au pouvoir en Grèce, et pour des raisons politiques, on a évité le vrai débat que posait en réalité cette élection, parce que les Grecs n'étaient pas devenus à 40% des partisans de Mao ou de Trotsky, ils étaient simplement conscients que justement, au début 2015, ces politiques qui s'étaient renouvelées pendant 5 ans avaient échoué.
Et est-ce que du coup vous diriez, Romaric Godin, que le traitement médiatique a eu une influence? Sans doute pas la principale influence, enfin, faut quand même espérer, parce que c'est quand même la Troïka hein, qui était à la manœuvre. Mais est-ce que le traitement médiatique a eu une influence dans, on va dire, l'aggravation et le prolongement de la crise grecque?
C'est difficile à dire, parce que la crise grecque, c'est une crise européenne. C'est pas une crise française ou simplement grecque, c'est une crise européenne. Et chaque État a une façon de réagir et un paysage médiatique différent. Mais pour ne parler que d'un des pays les plus importants de cette affaire, qui est l'Allemagne, il y a eu une pression quand même de la presse allemande, notamment au moment de l'arrivée de Syriza au pouvoir, qui a été extrêmement forte et qui a sans doute joué un rôle dans le comportement du gouvernement allemand au cours de ce premier semestre 2015.
Comment est-ce que vous répondriez à cette question, Alexia Kefalas et Cécile Ducourtieu? Alexia Kefalas d'abord à Athènes.
Il suffisait de voir le comportement de Wolfgang Schäuble, le ministre des Finances allemand, face au trublion Varoufakis, qui était le ministre des Finances grec pendant le premier mandat d'Alexis Tsipras, le premier semestre 2015. Varoufakis voulait tenir tête à Schäuble et autres, et Schäuble, qui était quand même, c'était vraiment David et Goliath, il s'est abaissé au niveau de Varoufakis, et ça devenait un pugilat qui ne servait absolument à rien, et qui ne faisait pas avancer le débat, et qui faisait justement monter la pression. Donc il y a eu aussi un comportement de Schäuble qui était assez grave, et tout le monde l'avait déjà compris depuis le début de la crise, mais là on le voyait encore plus, c'est-à-dire que c'était non seulement pour les Allemands, mais pour les Européens, on commence à prendre conscience en tout cas pour ceux qui ne le savaient pas, de beaucoup de choses. Donc là, c'est vrai qu'il y a eu un vrai clash qui a été assez marquant, en tout cas en Grèce et aussi en Allemagne.
Cécile Ducourtieu.
Oui, moi j'aurais peut-être un point de vue un petit peu plus nuancé sur ce semestre 2015 qui nous a beaucoup marqué ici à Bruxelles. Effectivement, le fait que quelqu'un de la gauche radicale arrive au pouvoir en Grèce n'a pas été étranger à la dureté avec laquelle on a traité notamment Varoufakis, parce que c'était lui qu'on voyait le plus souvent ici, mais enfin, on a vu beaucoup aussi Alexis Tsipras à partir du mois de mai 2015.
Voilà, Varoufakis qui était le ministre de l'économie de Tsipras, voilà, au début.
Qui effectivement qui a été remplacé par quelqu'un de beaucoup plus pragmatique, dirons-nous, avec les Européens, et ça a été sans doute une des concessions de Tsipras aux créanciers. Mais moi, je me rappelle qu'effectivement, il y avait cette composante politique. Chez certains, il faut faire payer, c'est-à-dire on ne va pas donner de concession à un gouvernement de la gauche radicale. Il en est hors de question, parce que ça pourrait créer un effet de pull factor, comme on dit ici, c'est-à-dire un appel d'air pour peut-être d'autres gouvernements. En tout cas, ça pourrait créditer certaines thèses qui étaient dérangeantes sur... La mauvaise approche de la crise grecque, hein, qui était grosso modo, on les endette pour qu'ils remboursent notre dette, donc il y avait un côté quand même totalement aberrant. Mais il y avait aussi autour de la table énormément de pays, et pas seulement les Allemands, qui à l'époque ne supportaient pas cette prétention, entre guillemets, des Grecs de vouloir des effacements de dette, de vouloir que le FMI sorte du pool des créanciers, et qui étaient des pays qui avaient des arguments, alors je pense à l'époque, on entendait beaucoup les pays baltes, qui avaient vécu très durement la crise financière de 2008-2009, qui avaient fait des réformes, et on les avait beaucoup moins entendus à Bruxelles, ça c'était clair, peut-être culturel, mais en tout cas ils s'étaient pas manifestés comme les Grecs. Il y avait aussi tous les pays d'Europe centrale et orientale, notamment les Slovaques, qui étaient très très présents sur le dossier et qui disaient il est hors de question qu'on accepte d'effacer la dette grecque, qui a déjà d'ailleurs été effacée pour partie 2-3 ans avant. Il y avait une partie des créanciers privés qui avaient accepté, alors ils n'avaient pas trop perdu au change, mais avaient quand même accepté un effacement de la dette. Donc il y avait cette situation qui était politiquement compliquée à Bruxelles, et on n'était pas dans le blanc et noir, c'est-à-dire les méchants allemands contre les gentils grecs. C'était plus subtil que ça à l'époque.
Romaric Godin.
Oui, c'est vrai, mais en même temps, ce que disait à l'époque le gouvernement grec, c'est ce qu'aujourd'hui, apparemment, d'après ce que je lis partout, c'est ce que tout le monde dit aujourd'hui. Et pour des raisons, peut-être d'excellentes raisons, j'en sais rien, à mon avis, c'était pas d'excellentes raisons, mais enfin, pour ces raisons-là, on a demandé aux Grecs d'accepter un troisième plan d'aide, qui n'est rien d'autre qu'un troisième plan d'endettement pour les Grecs. Et aujourd'hui, on peut pas dire mais la dette de la Grèce n'est pas soutenable, alors que et là encore je m'adresse pas à mes deux confrères qui sont en ligne, mais plutôt aux éditorialistes, alors que en juillet 2015 on a soutenu ce troisième plan d'aide qui était voué à l'échec d'emblée, puisque c'était le même que les deux précédents. Pourquoi celui-là aurait fonctionné? C'était exactement la même logique, c'était une logique encore plus restrictive que les autres, et en plus on l'a durci au fur et à mesure qu'on l'a mis en place. Donc, évidemment que ça allait échouer, mais on a quand même refusé, et quelles que soient les bonnes raisons qu'avaient les autres, à mon avis, il y avait un peu un jeu là aussi très politique. Les Allemands aimaient bien utiliser les Slovaques et les Baltes parce que c'était pas eux, c'était plus facile. Mais quelles que soient les bonnes raisons, la question que posait à ce moment-là le gouvernement grec était une bonne question. Ça ne voulait pas dire qu'il fallait faire ce que le gouvernement grec demandait, évidemment. Ça voulait dire qu'il fallait écouter cette demande-là. Et au mois de mars et avril 2015, toutes les demandes du gouvernement grec, toutes les propositions de réforme du gouvernement grec, qui n'étaient pas appuyées sur une baisse des pensions, c'était quand même ça le fond de l'histoire, ou sur une énième réforme du marché du travail, tout ça était systématiquement rejeté sans même les regarder par l'Eurogroupe. Ça pose véritablement un problème. Ça pose un problème, là encore une fois, dans le traitement journalistique. C'est-à-dire, il est un peu à un moment du devoir du chroniqueur ou de l'éditorialiste économique de se dire, est-ce que ce refus systématique de regarder ce que les Grecs, qui sont les Grecs, qui sont issus de la démocratie grecque, ce que ces gens-là nous disent, est-ce que c'est illégitime de regarder ce qu'ils disent et de regarder la véracité des questions? Simplement des questions qu'il pose.
Ce traitement journalistique, Alexia Kefalas, il ressemble à quoi aujourd'hui en Grèce, dans les médias grecs, à l'égard justement de cette crise? Est-ce qu'il y a une forme de consensus pour faire le constat de la nocivité finalement de ces politiques qui ont été imposées au pays, ou bien est-ce que c'est quelque chose qui peut faire encore débat entre les tenants justement d'efforts supplémentaires que les Grecs devraient accepter, et puis ceux qui disent que ça suffit, voilà, tout a été fait et que ça ne sert à rien?
Non, il y a un consensus. Toute la presse est unanime là-dessus, de tout parti politique confondu, que l'austérité n'a pas marché. C'est un constat, mais surtout le quotidien des Grecs, on peut le lire tous les jours, le voir tous les jours, avec notamment cette émigration, tous les cerveaux grecs. Vous savez que les Grecs ont les jeunes diplômés les plus importants d'Europe. La plupart sont partis dans le reste de l'Europe ou dans le reste du monde pour trouver un travail, parce qu'ici, eh bien, ils ont 5 diplômes, ils parlent 3 langues, on leur propose que 480 euros par mois quand ils sont payés, parce que personne ne paye personne n'est vraiment payé en temps et en heure ici, mis à part les fonctionnaires. Donc tout le monde est endetté. Il n'y a pas que le pays qui est endetté. Tout le monde s'endette au fur et à mesure. Et c'est ça qu'on constate véritablement. Donc la presse relate ce malaise. Et c'est plus qu'une déprime. C'est-à-dire qu'il y a vraiment un mal-être qui est palpable ici. Et qui est palpable aussi dans la presse qui relate tout ça. Et ils ont l'impression, on le voit dans beaucoup d'éditos ici, que le pays se transforme un peu en Miami de l'Union européenne, que ça va être un paradis parce qu'il y a des belles villes, il y a des beaux paysages, et ça s'arrêtera là. Voilà, donc on sera là pour les touristes notamment allemands, pour la silver economy allemande aussi, ou du nord de l'Europe, mais c'est tout. Alors que la Grèce, c'est pas que ça.
Donc il y a quoi, il y a une forme d'épuisement et non pas de, comment dire, d'approche combative.
Ils peuvent plus combattre parce qu'ils ont essayé, même dans la presse, hein. Ça n'a mené à chaque fois à rien. Et le fait que le gouvernement d'Alexis Tsipras, qui est un gouvernement de gauche radicale, qui a finalement succombé à ses politiques d'austérité, ça a complètement laissé estomaquer la plupart de la population. Et la preuve en est que dans les sondages actuellement, effectivement, le parti de Nouvelle Démocratie, qui est le parti de nouveaux conservateurs, domine le parti de Tsipras de au moins 10 à 15 points, c'est-à-dire qu'ils sont loin devant. Malgré tout, la plupart des Grecs seront prêts à revoter pour Tsipras. On le voit souvent chez les dessinateurs qui, eux, photographient bien la société grecque. Un dessinateur avait, il y a quelques jours, un dessin où il y avait un petit homme qui disait « Je ne voterai plus pour Tsipras, c'est fini, qu'on me coupe la main. » Bon, allez, encore une ou deux fois et c'est fini. Et c'est véritablement ça, parce qu'ils ne savent plus, ils sont complètement perdus. Pour eux, le comparatif conservateur, ça reste l'austérité, ça rime avec des nouvelles coupes. Donc, bah, autant garder Tsipras, mais on va vers où? Donc, chacun cherche à fuir ou à se protéger ou à se débrouiller.
Romaric Godin.
Oui, je crois que c'est un élément important, c'est qu'on n'a pas pris conscience, et notamment en 2015, de ce qu'on faisait à la démocratie grecque, en réalité. Et moi, je me souviens très bien d'un tweet du ministre des Finances slovaque, Peter Kazimir, qui est un des tenants de la ligne dure au sein de l'Eurogroupe, que Cécile doit bien connaître, et qui disait « Voilà, on a vaincu le printemps d'Athènes après l'accord du 13 juillet 2015. Et je pense que ça a été quelque chose de très dur et qui est aujourd'hui un vrai problème pour l'Europe, parce que l'Europe doit vivre aujourd'hui avec ça, c'est-à-dire avec cette image d'un combat que les créanciers européens ont mené au nom de l'euro contre la démocratie grecque et avec un refus de faire un consensus. Et évidemment, ça provoque dans la société grecque des tensions qui sont assez malsaines, puisque en réalité il y a une incrédulité vis-à-vis du choix démocratique, c'est-à-dire qu'on a dit aux Grecs votre choix démocratique ne sert à rien. Et bien les Grecs en ont pris acte, et ça, pour moi, c'est un vrai problème qui se pose pour l'ensemble de l'Europe aujourd'hui.
Cécile de Courtieu, il y a une prochaine réunion des ministres des finances de la zone euro qui est programmée le 15 juin. Votre article, il est déjà quasiment écrit ?
Non, absolument pas.
Je sous-entends à travers cette question que est-ce que on peut aussi considérer que cette réunion-là pourrait quand même déboucher sur quelque chose d'autre qu'un constat d'échec, comme ça a été le cas il y a quelques jours de cela ?
Ouais, non, il faut qu'elle débouche sur quelque chose. Après, la crainte du gouvernement de Tsipras, je suppose, c'est qu'elle ne débouche, entre guillemets, que sur le déblocage d'une tranche de prêts supplémentaires d'à peu près 7 à 8 milliards d'euros qui ne viserait qu'à rembourser 15 jours plus tard ou 3 semaines plus tard des emprunts faits à la BCE. C'est-à-dire qu'on en reste dans cette logique qu'on rembourse des prêts contractés sous la pression politique de 2015 et d'avant d'ailleurs. Donc s'il y a accord et accord ambitieux, tel que le veulent les Grecs et tel que le veulent aussi des gens à la Commission européenne comme Pierre Moscovici, des gens à la Banque centrale européenne comme Monsieur Curé qui s'exprimait encore ce matin très clairement, c'est il faut aussi un accord sur la dette. Même s'il est symbolique, il faut pouvoir dire aux Grecs à partir de mi-2018, quand vous sortirez de ce troisième plan d'aide au pays, on vous offre une perspective d'allongement des maturités, de baisse des taux de la dette grecque pour que vous ne soyez plus avec cette... C'est même pas un boulet en fait, hein, puisque les Grecs en ce moment ne repayent pas une grande partie de la dette qu'ils doivent à leurs créanciers, mais c'est surtout un signal très très important aux marchés financiers qu'ils peuvent enfin revenir en Grèce, les investisseurs, racheter des entreprises, investir des capitaux dans un pays qui a une stabilité, qui a une perspective, qui a un avenir en fait. Voilà.
Voilà. Et on souhaite, aux Grecs que cette perspective-là leur soit offerte d'ici quelques jours, donc lors de cet Eurogroupe. Merci beaucoup à tous les trois, hein, Romaric Godin, Cécile Ducourtieu et Alexia Kefalas d'avoir participé à cette discussion que vous pourrez retrouver sur franceculture.fr à la page du grain à moudre.